Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les dates d'ouverture de la chasse varient selon les régions, entre la fin août en Corse et la fin septembre dans la Sarthe. La chasse est donc entrée dans une nouvelle saison en France cette année. On en parle aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, mais pour ambiancer les trois récits, je commence par quelques chiffres. Il y a en France 1,1 million de chasseurs, c'est une pratique très masculine puisqu'on compte 2,2% de femmes licenciées et c'est aussi une activité qui semble plaire plutôt à une population vieillissante, explique Le Monde, puisque 53% des chasseurs sont âgés de 55 ans ou plus et 29% ont même plus de 65 ans en 2018. En incluant les emplois directs et indirects, la Fédération nationale de la chasse évalue les retombées économiques de cette activité à 3,8 milliards d'euros. Les chasseurs, ce sont aussi près de 5 millions d'électeurs en tout. Faut-il y voir un lien avec la baisse de moitié du permis national de chasse passé il y a un an de 400 à 200 euros ? Un geste fort et très contesté au sein même du gouvernement. Ensuite, il faut savoir que la chasse a fait durant la saison 2018-2019 132 victimes en France, dont 7 morts. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux 115 cas de l'année précédente. Samedi dernier encore, le 16 novembre, une femme enceinte qui se promenait dans une forêt de laine a été retrouvée morte, tuée par des chiens. Une chasse à courre qui se déroulait non loin pourrait être en cause. Pour finir, rappelons que la chasse, ce sont 40 millions d'animaux tués chaque année, plus environ 5 millions de blessés et non retrouvés selon les organisations de défense des animaux. On notera qu'une proportion significative de ces animaux tués à la chasse ont été élevés à cet effet. Certains parlent de 25%, mais le chiffre est contesté. Trois récits donc sans plus tarder par Alice Milo, pas très complémentaire ni très exhaustif, mais qui raconte quelque chose de ce que la chasse représente en France aujourd'hui.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Marius, j'ai 21 ans, je suis chasseur. Je suis né à Nantes, j'habite actuellement dans la banlieue nantaise, juste à côté du lac de Grandlieu, le plus grand lac de plaine de France. Mon père y chassait, donc forcément j'y chasse encore aujourd'hui. Alors comme en France, on a le droit de passer son permis de chasser à l'âge de 15 ans avec la chasse accompagnée. Donc en fait, c'est un fusil pour deux personnes, donc avec un tuteur. Donc c'est le même principe qu'on peut avoir avec la conduite accompagnée. Donc moi, c'est mon père qui a été mon tuteur. Et donc ensuite, j'ai passé mon vrai permis de chasser à l'âge de 16 ans, l'âge minimum pour le passer en France. Donc voilà, j'ai actuellement 20 ans, bientôt 21 ans. Donc ça fait presque 5-6 ans que je chasse durablement. Voilà. Je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement passionné par un type d'oiseau en particulier, ce sont les canards. Alors oui, ça peut être très étrange comme ça. Alors en fait, j'ai une chaîne YouTube où je partage mes aventures de chasse. Alors comment ça m'est venu ? Tout simplement, quand j'étais au collège, depuis bien longtemps passionné de chasse, en me baladant sur Internet, je suis tombé sur la première fois sur des petites vidéos de gens qui avaient des vidéos de chasse, tout ça. Alors j'en ai regardé une, deux, trois, cinq, dix, vingt, cent. Au fur et à mesure du temps, forcément, je commençais à chasser par moi-même. Je me suis dit, oh ouais, pourquoi pas, je vais prendre une petite caméra sur moi, du style GoPro, que je mets sur ma tête pour filmer mes assauts de chasse, pour avoir un souvenir vraiment de ça, parce que si on les filme pas, c'est des souvenirs vraiment très éphémères. Les revoir après chez soi, c'est un deuxième plaisir. Et puis, à force de regarder des vidéos de chasse, je me dis, pourquoi pas les partager. Donc voilà, au fur et à mesure, je postais des vidéos, les gens commençaient à me suivre, de plus en plus. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur Internet. J'ai aujourd'hui presque 50 000 personnes qui me suivent. Et de pouvoir partager ça à une communauté de chasse et de non-chasse, je trouve ça magnifique. Magnifique. Mon premier souvenir d'animal que j'ai pu prélever, c'était de manière classique un canard qui avait vraiment bien tourné, qu'on avait bien réussi à leurrer. J'étais très content de mon tir, je l'ai tiré tué proprement. Donc c'est un animal qui n'a pas souffert. C'est le but premier de l'acte de chasse, c'est de tuer l'animal sans qu'il ne s'en rende compte. C'est être confiant avec son arme, donc bien... Voilà, c'est vraiment ça le but premier d'un acte de chasse. Une belle action de chasse, c'est avant tout un animal qui est respecté dans sa mise à mort, qui est mort sans s'en rendre compte, parce que c'est vraiment le cas quand c'est bien fait. Bon alors moi typiquement mon mode de chasse habituel, ce que je vais faire c'est que en fait on va essayer de partir vraiment au moins 2 heures avant le lever du soleil pour arriver avant les oiseaux. En fait j'ai réalisé en fait des caches, on appelle ça des caches, qui sont en fait des arbres taillés où on va se mettre à l'intérieur, donc pour vraiment faire corps avec l'environnement. Moi, chez moi, j'ai des canards que j'élève, qui sont des canards typés un peu sauvages, qui ont été sélectionnés au fur et à mesure de dizaines de générations pour leur qualité de chant. Et donc, en fait, ces canards-là, on va les disposer sur la mare de façon à ce qu'ils se rappellent entre eux et qu'ils attirent les canards sauvages. Voilà. En plus de ça, je vais rajouter en fait donc des leurres, donc ce qu'on appelle des formes de chasse, qui sont des faux canards en plastique principalement, pour vraiment reproduire comme s'il y avait des oiseaux sauvages qui étaient ici, qui étaient en train de manger, qui étaient en train de se reposer. Et donc c'est ça, en complément du chant des oiseaux de mes canards domestiques, qui vont attirer les canards sauvages. Et donc c'est vraiment ça l'art de cette chasse, c'est d'attirer ces oiseaux-là. Il faut savoir que ce sont des oiseaux qui sont extrêmement méfiants, principalement ce sont des oiseaux migrateurs qui sont nés dans le nord de l'Europe, qui traversent toute l'Europe pour venir jusqu'à chez nous. Donc on a des vêtements vraiment en type camouflage, on a des cagoules pour se masquer le visage, des gants, voilà. Vu qu'on est dans des zones humides, donc il y a de l'eau, on s'appelle au minimum des cuissardes ou des waders. Donc en fait c'est des bottes qui montent soit jusqu'aux cuisses, soit jusqu'en haut des épaules. Alors en fait le but c'est d'attendre et de laisser de les leurrer. C'est vraiment ça, vraiment la difficulté première. Vraiment, l'action de tirer, c'est 1% de l'action de chasse. Et encore. Tirer, vraiment, l'acte de tir, c'est la consécration. Bien sûr, une fois que vous avez réussi à tuer votre animal, vous êtes content, vous le prenez dans vos mains, vous l'observez, vous l'admirez, vous lui rendez les honneurs, vous le respectez. Parce qu'il y a vraiment ça, une part très presque humaine là-dedans. Vous lui rendez les honneurs, le remercier d'avoir donné entre guillemets sa vie pour notre plaisir. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de racines au monde de la chasse ne voient que l'acte de tir et malheureusement l'acte de tuer. Si les chasseurs aimaient tant tuer que ça, ils iraient dans les abattoirs. Sauf que non, c'est pas ça. Et quand on voit des gens vous critiquent parce que vous êtes chasseur, parce que vous tuez des animaux, en disant ça, ils sont en train de manger un steak, il n'y a rien de plus hypocrite. Un animal qui ne savent même pas où il a vécu, comment il est mort, en souffrant ou pas, parce que bon, on met toujours le camp chasseur, le camp écologiste. Non, les chasseurs sont des écologistes et les chasseurs ont les mêmes intérêts que des écologistes anti-chasse. C'est d'avoir des animaux en quantité suffisante, en santé suffisante, enfin voilà, on a les mêmes objectifs. La chasse fait partie de l'écologie et l'écologie a besoin de la chasse. Voilà. Mon plus grand souhait, ce serait que ça se finisse et qu'il n'y ait plus jamais ces querelles de les chasseurs sont méchants, les écologistes sont les bons ou inversement, quoi. Et aujourd'hui, quand partout où vous allez, quand vous dites que vous êtes chasseur, les gens vous regardent, oh, vous êtes chasseur, oh là là, parce qu'ils ont entendu plein de bêtises à droite et à gauche. Personnellement, ça ne m'a jamais porté préjudice. Parce que je l'ai toujours expliqué de la façon dont c'est réellement. Je pense notamment à des copines de certains de mes amis qui sont anti-chasse. Mais qui comprennent et qui admettent ça. J'ai même un copain, un pote, où sa copine est vraiment anti-chasse, et alors que lui, c'est un vrai chasseur, et il passe tous ses week-ends là-dessus. Alors, des fois, c'est dur, il y a des petites tensions entre eux, mais bon. Alors, comme tous les chasseurs, tous les animaux qu'on tue, on les mange. Moi, typiquement, ce midi, je mangeais quoi? Un canard que j'ai tué il y a une semaine. Voilà. Presque à chaque fois que je fais un repas entre copains, ils savent ce qu'ils vont manger, ça va être du gibier. Il faut savoir que les animaux sauvages ont vraiment des saveurs, on va dire, sauvages, quoi. Voilà, ça a du goût. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu avec les viandes un peu traditionnelles. La chasse, pour les gens qui chassent le canard, on parle de la canardite aiguë, de manière un peu humoristique. C'est une sorte de maladie que les gens ont pour ces oiseaux-là. Si vous n'êtes pas chasseur et que vous m'entendez dire ça, vous dire, mon Dieu, ils sont fous, ces gens. Ils sont fous. Même entre nous, on dit des fois... Quand on va sous la pluie, dans le vent, dans le froid, on se dit, on fait tout ça pour essayer de chasser des canards, on est quand même un petit peu bizarre quand même. Mais non, on vit pour ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous, donc on dit qu'on a la canardite aiguë, quoi, c'est vraiment ça.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Sonia et j'ai 25 ans. J'ai grandi dans un petit village. Mon grand-père était cultivateur, il avait des animaux, etc. Je suis pas née anti-chasse, oui, c'était pas du tout un élément central de ma vie où vraiment, voilà, la chasse, c'est ma lutte, pas du tout. Mais je me suis rendu compte de la place que la chasse avait dans la vie locale. Et ça s'est manifesté par des petites choses, d'aller en forêt ou de me retrouver sur une plaine et d'entendre des balles siffler. Et de me rendre compte qu'en fait, j'étais dans une situation extrêmement dangereuse, que je savais pas d'où les balles venaient et que j'avais l'impression qu'elles passaient quand même très près. Et jusqu'au jour où, par pur hasard, en fait, j'ai des amis qui m'ont proposé « Au fait, nous, on va démonter des miradors ce soir, est-ce que tu veux venir ?» Et j'ai dit « Bien sûr », parce qu'en fait, une fois qu'on m'a formulé cette idée, je me suis rendu compte de l'absurdité, en fait, de ce qui se passait en forêt. C'est des amis avec qui j'avais l'habitude d'aller en forêt, de me balader en forêt. On n'avait pas de prétention, on n'est pas naturaliste, on n'est pas pro de la nature, on n'est pas du tout. Mais par contre, bah, on fréquentait la forêt régulièrement et on était toujours émerveillés en fait de croiser un chevreuil ou de voir des animaux, d'avoir la chance en fait de les croiser. Et c'était pas non plus des militants. Des gens cagoulés ou quoi, qu'on peut imaginer, pas du tout. Je suis pas une habituée de la délinquance ou quoi, pas du tout. Et en fait, ça m'a même pas du tout choquée d'entendre une proposition pareille. Donc ce jour-là, on s'est retrouvés tard le soir, vers 23h, il faisait déjà nuit. C'était en plein hiver. Et on a roulé en forêt jusqu'à un endroit où on pouvait se garer discrètement. On pouvait éteindre les feux et on pouvait ne pas voir la voiture depuis la route. Et on est parti à pied jusqu'à trouver les premiers miradors. Pareil, sans lumière, pour pas se faire remarquer. Je savais que c'était quelque chose d'illégal. J'avais forcément cette gêne au début de me dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? On est habillé en noir et on est avec des lampes de poche dans la forêt la nuit. C'est un peu bizarre, avec des outils, c'est un peu bizarre. » Mais petit à petit, ça se transforme en excitation de se dire qu'on est en train de faire quelque chose de fou. Mais en même temps, c'est quelque chose de bien. On a marché peut-être 10 minutes et on est tombé sur quelques miradors en acier. Donc ils sont soudés, ils sont normalement indémontables. Il faut utiliser une pince Monseigneur. Ça fait énormément de bruit forcément sur l'acier. Donc, c'est très long, c'est très dur. Donc il y a toujours cette peur de tomber sur n'importe qui. On est en pleine forêt et il fait nuit et il n'y a pas de réseau et il peut se passer n'importe quoi. On peut se prendre un coup de fusil, on peut se prendre un coup de poing surtout, ce qui est le plus probable. On peut se faire bousculer, on peut rencontrer un chasseur qui passe pour vérifier son matériel, ça peut arriver. Quelqu'un qui tourne pour voir s'il n'y a pas du braconnage ou voilà, le garde-chasse qui est pas loin. Donc quand on avait fini avec ces miradors-là, on a pu démonter un grand mirador tout neuf qui était posé là, qui était tout beau. C'est marrant parce qu'on retrouve toujours en fait des traces des chasseurs qui sont passés là. Il y a toujours des douilles où il y a des déchets, des bouteilles, il y a plein de choses et on retrouve ces vestiges-là. Ça rend la chose concrète. Ça rappelle que ah ouais, en fait, il y a des gens qui s'assoient là toute leur journée et qui attendent juste de pouvoir tirer sur ce qui passe devant eux. Et on se rend compte aussi que on fait quelque chose d'illégal, quelque chose qui nous met en grand danger, et on le fait pour autrui et on le fait pour des êtres qu'on ne voit pas, des êtres qui vont pas venir nous remercier ou nous taper dans le dos ou quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui est désintéressé, quoi. Et c'est assez satisfaisant de se dire que bah on a fait quelque chose qui a servi concrètement là, et que pour la chasse qui aura lieu le lendemain, bah il y a peut-être quelques animaux qui ont gagné quelques heures ou quelques jours de vie en plus. Et ça, ça n'aura jamais de prix. Le même hiver, j'y suis retournée plusieurs fois à des endroits différents. Mais le procédé était toujours le même. Y aller la nuit, de manière discrète, de cacher la voiture, loin de la route. De rester discret et de pas aller s'en vanter à tout va sur les réseaux sociaux ou quoi. Alors depuis 2005 je crois, sous Nicolas Sarkozy, il y a une loi qui condamne l'obstruction à un acte de chasse, qui le punit de 1 500 € d'amende. Et donc c'est une contravention qui a été mise en place à une époque où il y avait eu une recrudescence d'actes de vandalisme, etc. Et donc ça avait un peu été un moyen de faire peur et de calmer les personnes qui faisaient ces actes. Maintenant aujourd'hui il y a des sénateurs qui essayent de faire passer une nouvelle loi qui transformeront cette contravention en fait un délit. Et là, la note, elle passe à 15 000 euros et à 1 an de prison. Là, on parle de choses fortes, parce qu'effectivement, il y a une destruction d'un bien. Mais il existe plein d'autres manières de saboter la chasse qui sont pas aussi illégales. Des actes de sabotage qui peuvent être tout petits, ça peut être simplement klaxonner quand on est sur la route et qu'on croise des chasseurs. Techniquement, c'est un acte de sabotage. Et ça peut être aussi se retrouver en forêt et simplement faire du bruit. Pour faire fuir les animaux aussi. Et en fait, tous ces petits gestes, je me suis rendu compte petit à petit que énormément de gens les faisaient. Et pas seulement des gens comme mes amis qui pouvaient avoir la petite vingtaine. C'était aussi tout simplement des promeneurs, des randonneurs qui ont peut-être 40, 50 ans, 60 ans. Donc c'est un peu dédramatisé pour moi cette image de terroriste cagoulé militant. Je trouvais ça vraiment tellement absurde de me dire que les animaux que je pouvais croiser la journée, en fait, il y a des gens qui, le lendemain, se levaient à 8 h pour aller les tuer entre amis pour s'amuser. Moi, entre amis, je préfère aller, démolir un objet, un bien, qui n'impactera l'intégrité de personne. On sait qu'on a gêné. Et je pense que c'est un. En tout cas, pour moi, c'est l'objectif principal. Ce sera toujours de gêner et de mettre un peu un petit caillou dans la chaussure et de se montrer aussi que y a une opposition qui est là. Et c'est montrer qu'il y a des gens qui sont pas d'accord et que même si les chasseurs vont s'obstiner à croire qu'il s'agit de terroristes cagoulés qui agissent en groupuscule. Très secret. En fait, la réalité, c'est que c'est un peu n'importe qui se retrouve à faire ces choses-là et qui montre leur opposition comme ça.
J'ai 42 ans, j'habite à La Benne, dans le sud des Landes. Voilà, donc je suis un chasseur repenti. Oui. Alors, j'ai grandi au Pays Basque, à Bayonne, avec des parents médecins qui m'ont toujours fait découvrir la nature, et avec des grands-parents qui vivaient en Charente, à la campagne, et on est une famille de chasseurs. Alors on partait tôt le matin avec mon grand-père, il avait des bois qui lui appartenaient, donc on chassait le faisan, la caille, le perdreau, la bécasse dans ces bois, avec son petit chien, et on marchait en discutant de tout et de rien, et ça dès le plus jeune âge. Je me souviens de la première fois où j'ai tiré. Je devais avoir aux alentours de 16 ans, puisque c'est à peu près l'âge où j'ai commencé à chasser avec mon grand-père régulièrement. On était parti comme tous les matins, chasser la plume, comme on disait, aux chiens d'arrêt, hein, avec un épagneul breton. Et je me rappelle comme si c'était hier. Je me refais la scène régulièrement. Le chien travaille, il cherche, il flaire, il se rapproche, et à un moment donné, il marque l'arrêt. Mon grand-père donne l'ordre de faire décoller le gibier décolle, le coup de fusil claque, le gibier tombe. Voilà, donc mon grand-père était très fier. Moi, j'étais très content à l'époque d'avoir réussi mon premier coup de fusil. Voilà, c'est forcément, quand on est un jeune adolescent, c'est des moments qui marquent plus pour la joie qu'a ressenti mon grand-père que ce que moi j'ai ressenti. Voilà, c'est ça qui m'avait marqué à l'époque. S'il y a bien quelque chose qui était sacré, c'est qu'on ne tuait jamais pour le plaisir. Et on ne tuait jamais plus qu'on ne pouvait manger. Ça veut dire que dans l'esprit de mon grand-père, on partait avec deux ou trois cartouches, puis on ramenait une pièce. Si on tirait à côté, eh bien, c'était le jeu, on ne ramenait rien. Laisser du gibier au chien, c'est, dans son esprit, c'était inimaginable. Donc on ramenait du gibier pour manger. Alors il y avait une règle, hein, c'est celui qui avait tué l'oiseau qui le plumait et ma grand-mère qui le cuisinait. Pendant très très longtemps, j'ai chassé 7-8 ans avec mon grand-père, jusqu'à ce qu'il soit trop fatigué pour chasser. Quand il a arrêté de chasser, j'ai continué. Je faisais de la chasse à l'approche, à l'arc, puisque rapidement j'ai considéré que le fusil c'était une méthode d'abattage. Je pensais que... assez naïvement que la chasse à l'arc était plus sportive, plus noble. Puis un jour, mon regard sur la chasse a changé. Je me souviens, t'es parti chasser à l'arc et il est sorti en face de moi. Un magnifique brocart, un mâle. Et s'il y a des déclics, c'est ce jour-là où je me suis dit vraiment, on peut pas tirer sur un animal aussi beau. Le plus beau chevreuil de la forêt, ça n'a pas de sens. Avec des bois particulièrement développés, il était figé au milieu d'un champ, petit matin, avec une lumière sympathique. Là, je me suis dit, quand même, il y a un problème de tirer juste pour manger un animal comme ça, que je serais ravi de revoir le lendemain. Il avait une telle majesté, une telle présence au milieu de ce champ, une telle grâce, tout ça m'a frappé. Voilà. Et en me disant, on peut pas, pour du plaisir personnel, retirer ça des forêts, de la vie sauvage. Il y a quelque chose qui tournait pas rond là. Donc j'ai pas tiré. Enfin plus exactement, j'ai tiré exprès 5 mètres à côté pour le foutre la trouille et qu'il parte le plus loin possible. Oui, parce qu'il y avait d'autres chasseurs dans le coin et que certains s'en seraient chargés. Mais je pense que je me posais déjà beaucoup de questions avant, mais bon. Assez curieusement, j'ai jamais eu de plaisir à tirer. J'ai jamais eu de plaisir à tuer, et plus que de tuer, ce qui m'a toujours été insupportable, c'est de faire souffrir l'animal. Encore une fois, je conçois assez bien de tuer du gibier ou du bétail pour le manger, mais par contre, ce qui m'est intolérable, c'est de le faire souffrir outre mesure. Et malheureusement, il se trouve qu'à la chasse, quand même, le gibier qui est fusillé sur place en un éclair, c'est pas toujours le cas. Et ça peut arriver, hein, qu'un coup de fusil parfait qui tue sur un net, l'oiseau est mort avant d'avoir touché le sol. Ça m'est arrivé, c'est parfait. C'est rarement le cas. Souvent, le chien le ramène, l'animal est encore agonisant dans sa mâchoire. Et ça, c'est quand même très désagréable. Ça n'a jamais été un plaisir, ni sur le premier faisant, ni sur la dernière bécasse. De façon assez surprenante, je me suis mis en fait à la chasse et à la photo animalière. Donc pendant quelques temps, j'ai fait les deux. Et plus je photographiais, plus je prenais conscience de la fragilité de la faune sauvage, plus mes connaissances naturalistes s'affinaient, plus je comprenais que la chasse, au moins telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est un modèle qui a fait son temps et qu'on ne peut plus cautionner la chasse comme elle est organisée aujourd'hui. Les populations de faune sauvage se cassent dramatiquement la figure. On a perdu 60% de nos oiseaux nicheurs en 20 ans. 20 ans, hein, c'est ma génération, hein, c'est pas celle de mes parents. Donc évidemment, la chasse n'est pas la première cause et n'est pas la seule. Hein. Mais On ne protège pas une population en lui tirant dessus. Et la gestion de la faune sauvage est principalement déléguée aux chasseurs. Je vais peut-être en choquer beaucoup, mais ce sont en général de mauvais naturalistes. Ils connaissent bien, et encore pas tous sur le bout des doigts, les espèces chassables, mais qui représentent une infime partie de la faune sauvage. Je me rappelle très bien un chasseur... Son chien arrête un oiseau, l'oiseau part, il met un coup de fusil, il tire. Je viens le voir, je lui dis « Ah, c'était quoi ?» Il me dit « Ben, je sais pas, j'attends que mon petit chien me la ramène et je vous le dirai. » Voilà l'exemple typique de... C'est ce qui est caricatural, malheureusement. Mais voilà, c'est la règle absolue, comme quoi on doit avoir identifié le gibier avant de l'avoir tiré, hein, ce qui est écrit en lettres d'or dans tous les codes de chasse. Bon, sur le terrain, c'est clairement pas pratiqué. Alors là, je vais pas me faire des copains, mais il suffit d'aller se balader un peu dans les Landes, n'importe où, pour tomber sur des sacs de maïs éventrés, devant les miradors. Bon, toute cette population de sangliers a été créée et montée de toutes pièces pour les chasseurs, pour avoir davantage de pièces à tirer. S'ils avaient un brin d'honnêteté, ils le reconnaîtraient. Quand on chasse, on est obligé de fréquenter cette population. Et au bout d'un moment, on n'a plus grand-chose à partager avec elle. Et on prend d'autres chemins. Le dernier animal que j'ai tué, c'était une bécasse. Une bécasse que mon épagneul breton avait arrêtée de façon magistrale, que j'ai tué d'un coup de fusil. Voilà, c'est le dernier coup de fusil que j'ai donné sur un animal d'ailleurs. C'était il y a 5 ans. Mon regard sur la chasse avait déjà énormément changé. J'avais pas pris de décision, c'était pas clair. Et puis je me suis dit, à la fin de la saison, que raccrocher directement le fusil, ce serait pas plus mal. Mais au moment de cette bécasse, non, je savais pas que ce serait le dernier. J'aime toujours autant les armes à feu. J'ai gardé mon fusil. Par contre, on peut toujours tirer, il y a des stands de tir faits pour ça, et c'est un sport tout à fait honorable, qui demande beaucoup de concentration, de technique et de pratique, mais on peut faire des trous dans du carton plutôt que dans un animal sauvage.
He made a fire in the garden, he made a fire in the garden. Can only see the shape on the ground, see the shape on the ground. Two horses passed.
C'était l'ouverture de la chasse, un reportage d'Alice Milo réalisé par Yaël Mandelbaum avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci à toutes les personnes que nous avons rencontrées et également à Aurélie Marsay qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Des infos sur les trois personnes que nous avons rencontrées et leurs activités, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Ne manquez pas non plus aujourd'hui notre nouveau podcast des hommes violents signé Mathieu Palin et en ligne dès aujourd'hui sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast et sur franceculture.fr. Écoutez, mettez des petites étoiles et des commentaires, ça nous aide et ça nous encourage, en tout cas si ça vous a intéressé.